Voilà, nous continuons dans cette série d'études tirées des enseignements de Jésus dans la chambre haute. Nous en sommes à la neuvième étude. Donc, nous sommes dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Et nous allons commencer la lecture au verset 16 jusqu'au verset 24. Jean chapitre 16. Les versets 16 au verset 24. Dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit ? Encore un peu de temps ? Nous savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera et en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Bien sûr, d'un côté, vous voyez, Jésus semble parler de quelque chose que les disciples ne saisissent pas. Ils sont un peu dans la confusion, là, parce que il dit encore un peu de temps. Ensuite, il dit, vous ne verrez même plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Jésus avait commencé la soirée en leur disant, je m'en vais. Je vais quitter, je m'en vais vers le Père, je vais vous préparer une place, et une fois que j'aurai préparé cette place, je reviendrai pour vous prendre. Et puis il avait aussi dit, mais je ne vais pas vous laisser orphelin, parce que je vais vous envoyer le Consolateur qui viendra, il sera avec vous, et il vous accompagnera. Il vous conduira, il vous enseignera, il vous rappellera mes paroles. Il sera avec vous, éternellement. Et là, bon, ça commence, hein, la soirée avance, ça commence à pénétrer tout doucement. Et puis, tout d'un coup, Jésus dit, encore un peu de temps, je m'en vais, et ensuite encore un peu de temps, et je reviens. Alors là, Seigneur, excuse-nous, mais avec tous nos respects, mais on ne suit pas. De quoi tu parles ? C'est justement là avec Jésus va répondre à cette interrogation. Bon, il savait ce qu'il faisait, hein. Et il savait, mais vous savez, des fois, c'est comme ça, en posant des questions, en disant quelque chose de nouveau, tout d'un coup, les gens écoutent mieux, n'est-ce pas ? Puis, une deuxième petite remarque que je fais, et vous avez peut-être remarqué, c'est le mot « joie » qui revient dans ce passage. On avait déjà vu plus tôt, il avait dit « Je voudrais que votre joie soit parfaite hein, » à la fin au verset 11 du chapitre 15. Il avait parlé de joie parfaite, alors qu'eux, ils sont le cœur troublé, ils sont un peu attristés, et lui, il leur parle de joie. Et puis ici, encore une fois, il parle de joie. Donc, quelque part, je dois me dire « Il y a quelque chose d'intéressant pour moi là ». D'abord par le simple fait que Jésus en parle, et deuxièmement parce que ce sont des mots clés. Une première remarque que je veux soulever, c'est que ses disciples sont dans un état où ils ne comprennent pas ce que Jésus vient de dire. Et que font-ils ? Ils parlent entre eux, comme si rassembler 11 têtes, ça pourrait donner des réponses. Mais apparemment, ça n'a pas trop bien réussi. On dit qu'il y a du conseil dans la multitude des conseillers. Il y a de la sagesse là, mais là, ils rassemblent leurs têtes et puis il n'y a pas plus. Et c'est vrai que quand il s'agit de paroles prophétiques, comme cette parole l'est, eh bien, ce n'est pas en rassemblant des têtes que nous pouvons mieux comprendre les paroles prophétiques. Jésus sait qu'ils ne comprennent pas. Et puis, dans un sens, il dit, bon, j'attends que vous me posiez la question, mais ça ne vient pas. Mais il dit, mais je sais que vous posez la question. Je sais que vous vous interrogez. Et je sais même que vous avez envie de me poser la question, mais vous ne l'avez pas faite encore. Vous n'avez pas fait encore. Vous savez, qu'est-ce que nous faisons lorsque on lit une parole du Seigneur et on ne comprend rien ? Qu'est-ce que vous faites ? Prenez votre Bible, vous lisez un passage. Alors là, je ne sais pas de quoi il parle. Là, j'ai rien compris. Qu'est-ce que vous faites ? Vous fermez la Bible et vous dites, moi, je ne comprends rien dans la Bible. Ce n'est pas la peine que je perde mon temps à lire. On ne comprend rien. Vous savez, ce n'est pas parce que ma tête ne m'apporte pas des réponses et des explications qu'il n'y a rien dans le passage. Vous savez, sinon on est réduit à la vache qui est dans le pré et qui voit passer un TGV. Et elle est encore comme ça et le TGV, il est déjà à 20 km. Et elle regarde, elle n'a rien compris. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle retourne et continue à brouter. Alors que ce TGV est rempli de technologies extraordinaires. Mais elle n'est pas en mesure de comprendre. Alors est-ce qu'elle peut se dire, c'est ce que font les hommes là, c'est idiot. Je ne comprends rien. Ou peut-être qu'elle peut reconnaître que elle, c'est elle qui n'a pas les capacités d'apprécier les créations des hommes. Et vous savez, des fois, on est là, les gens prennent la Bible et puis disent « je ne comprends rien ». Donc, si je ne comprends rien, c'est que c'est bête. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut s'y prendre. Je dis, peut-être que je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas le niveau, il y a des choses qui m'échappent. Il faudrait que je pose des questions. Jésus dit, vous ne posez pas la question. Je sais que vous ne comprenez rien. Vous ne posez pas la question. Posez-moi la question. Et lorsque je veux interroger le Seigneur, où est-ce que je pose des questions ? Google. Vous pouvez, il y a pas mal de choses sur Google. Mais, vous savez, si Google vous renvoie à la Bible, c'est très bien. S'il vous envoie ailleurs, alors faites attention. Parce que on demande au Seigneur. Et où est-ce que le Seigneur parle ? Dans la Bible. C'est dans la Bible qu'on trouve les réponses, les explications. Vous savez, les parents se trouvent constamment avec ces situations. Hein, l'enfant de 4 ans, là, qui tout d'un coup, il dit, papa, les bébés, ça vient d'où ? Qu'est-ce qu'il reçoit comme réponse ? Il reçoit un début de réponse. Il ne reçoit pas toutes les questions. Il n'est pas capable d'assimiler. On lui donne un petit quelque chose. C'est maman et papa qui font ça. Et puis, bon, c'est bien ça. Je croyais que c'était le docteur. Non, voilà. On l'a aidé un petit peu. Et il continue. Il grandit, il va plus loin, et puis il repose la question, parce que ça lui revient comme salle de travail. Il revient, et puis on pose la question. Et puis on en répond un peu plus. Et puis, bon, il arrive un âge où bon, il comprend le principe. Mais vous savez, c'est pareil, le médecin, quand vous allez le voir. Hein, puis alors, vous dites, médecin, qu'est-ce que j'ai? Vous savez, il vous donne une réponse toute simple, petite, comme ça, et même parfois, il vous fait des dessins sur le papier pour expliquer ce qui vous arrive. Les réponses qu'il met là, s'il les mettait sur sa feuille d'examen, il n'aurait rien du tout. Mais il répond en fonction de notre capacité d'assimiler, de comprendre. Bon, après, si on a des capacités, hein, si tout d'un coup, si bon, c'est un autre médecin qui consulte un médecin, il a d'autres réponses. Mais ça ne veut pas dire que parce que je ne comprends pas, c'est que c'est idiot. Et la Bible aussi, ce n'est pas quelque chose que parce que je ne comprends pas, eh bien, je ne sais pas quoi faire. Non, non, on fait comme l'enfant qui commence. Seigneur, donne-moi un début de réponse, toute simple. Et puis après, je continue à interroger la Bible, je continue à avancer, mes expériences, mes découvertes. Et puis, au fur et à mesure, ça s'accumule, on peut avancer, c'est une croissance. Et puis en plus, le Seigneur venait de nous dire, on l'a lu là dernièrement, il nous a envoyé le Consolateur, qui nous rappellera les paroles, qui nous aidera à nous souvenir des paroles de Jésus, qui nous aidera à faire le lien entre des passages bibliques, qui nous aide à comprendre, car sans l'Esprit, comment pouvons-nous comprendre les choses qui concernent l'Esprit de Dieu? Et donc, quand je lis un passage et je ne comprends pas, eh bien, je fais appel à la parole de Dieu, ou je trouve quelqu'un qui connaît mieux la parole de Dieu, qui peut me guider dans la recherche, mais dans la parole de Dieu. Ce qui sort d'une autre tête, on n'est jamais trop sûr. Mais ce qui sort de ce que Dieu a révélé et préservé pour nous, eh bien là, nous pouvons aller très loin. Et puis après, c'est une question de, comme disaient deux jeunes enfants qui sortaient de l'école du dimanche, et ils discutaient sur le trottoir, rentrant à la maison, ils disaient, tu sais, il y a plein de trucs dans la Bible que je ne comprends pas. Ça m'embête. L'autre, il répond, il dit, c'est pas tellement les choses que je comprends pas qui m'embêtent, c'est les choses que tu comprends. Parce qu'après, il faut les mettre en pratique. Hein, et c'est déjà, avec ce que je comprends, et si je commence à vivre avec ce que je comprends, le Seigneur éclairera sur d'autres choses. Jésus dit, et puis ici, Jésus savait, parce que Jésus, c'est pas un homme, et Dieu, il savait ce qui se passait dans leur tête. Bon, il y a des occasions, dans le ministère de Jésus, on savait qu'il savait ce que pensaient les pharisiens au fond de la salle. Il savait ce que pensait un autre. Il savait que quelqu'un le recherchait, il fait un détour pour se révéler à lui. Et Jésus, même ses disciples, il dit, je sais que vous voulez m'interroger, faites-le, allez-y. Et alors, il commence à leur parler. Il dit, vous savez, je sais que ça vous embête, quand je vous dis, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, et vous me reverrez. Et c'est sûr que, il dit, qu'est-ce que ça veut bien dire? Surtout dans le contexte de ce qui a été dit. Eh bien, quand il dit dans un peu de temps, c'était pour dire que c'est quelque chose qui va arriver avant ce que je vous ai dit avant. Je vais parler de ce départ vers le Père et je vais préparer une place. Mais avant cela, il y a autre chose qui doit se passer, dans peu de temps. Il y a quelque chose qui doit se passer. Et il dit, en fait, et quand je lis là, verset 20, il dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse changera en joie. Il dit, il y aura un moment où vous ne me verrez pas et vous serez dans la tristesse, mais tristesse de genre, tristesse de mort, de situation, de perte terrible. Hein, c'est pour ça qu'il parle aussi de lamentation, vous vous lamenterez. Il dit, ce sera vraiment le désespoir. Mais il dit ensuite, vous me reverrez Et puis alors là, vous trouverez une joie comme vous n'avez pas maintenant, que vous n'avez pas encore vue jusque-là. Et ce sera une joie qui ne pourra pas vous être ravie. Parce que le fait que Jésus parte et puis qu'il va revenir, encore ça donnait de l'espérance aux disciples. Il va partir et puis il va revenir. Bon, on ne va pas le voir pendant un temps, mais il va revenir et ce sera encore mieux quand il reviendra, certainement. Et encore, on peut, même si on ne comprend pas trop bien, mais au moins on comprend que ça ira bien. Mais là, quand Jésus commence à leur parler, et il sait ce qui va arriver, c'est qu'ils vont voir Jésus tué, crucifié, enterré. Alors là, il peut déjà deviner quels vont être les sentiments de leur cœur. Ils vont se dire, mais voilà, tout est raté, c'est l'échec total. Lui, il nous avait dit qu'il allait partir, préparer une place et revenir. Mais là, c'est tout est annulé. Il est mort. Et c'est comme ça qu'ils vont le vivre, en fait. Là, Jésus veut les avertir, mais eux ne vont pas se souvenir de ses paroles et ils vont vivre un temps difficile pendant 3 jours. Jésus leur dit, pour leur donner une référence, il dit c'est comme la femme qui est sur le point d'accoucher et qui vit les contractions. Et si ce n'était pas pour la médecine que nous avons aujourd'hui, une femme qui accouche frôle la mort chaque fois. Et presque elle se prépare à mourir chaque fois. Parce que si jamais il y a une moindre complication, c'est terminé. C'est à ce prix-là qu'une femme a accouché pendant des siècles. Et il dit, c'est l'accouchement de Benjamin que Rachel est morte. Hein, mais et combien depuis? Mais là, Jésus dit, c'est comme l'accouchement d'une femme. Et c'est une souffrance terrible. Mais ensuite, il y a un soulagement qui lui fait presque oublier ce qu'elle a traversé. Il dit, vous allez avoir une expérience semblable. Ce sera une tristesse terrible. Mais ensuite, il y aura une joie comme vous n'avez pas eu et connu jusque-là. Et cette joie, eh bien, sera permanente. Personne ne vous la ravira. Donc, ce n'est pas juste un petit plaisir. Vous aurez un grand festin, vous mangerez, et puis ça sera bien pendant une soirée, et puis après, le lendemain matin, on a trop mangé hier soir. Non, ce n'est pas ce genre. C'est quelque chose qui reste, qui demeure. C'est une joie profonde. Jésus est en train de les préparer pour sa mort et sa résurrection. Il dit, je m'en vais, je vais mourir, je vais être enterré. Mais il en avait parlé avant, mais eux, ils n'avaient pas saisi encore. Il avait dit, combien de fois il leur a dit? Il leur a dit, je monterai à Jérusalem, je serai crucifié, je mourrai, mais je serai ressuscité. Mais bon, ça, ils entendaient les mots, mais ils ne saisissaient pas. Et là, Jésus encore, il les prépare. Et pour que, mais vous voyez, on peut lire cette tristesse qu'ils ont eue dans Luc, dans l'évangile de Luc. Allez avec moi dans l'évangile de Luc. Hein. Luc 22, 24. Luc 24. Vous vous rappelez, quand Jésus a rattrapé ces deux hommes sur le chemin d'Emmaüs, et il les rattrape, verset 17, il leur dit, « De quoi vous entreteniez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, en parole devant Dieu et devant tous les peuples,
comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont passées. Voilà, voilà l'attitude de ces disciples qui traversent. Là, celui en qui ils avaient tout misé tout leur espoir. Eh bien, ils l'ont vu condamné, crucifié. Dieu n'est pas intervenu, Dieu ne l'a pas sauvé, rien du tout. Les gens se moquaient de lui. On lui dit, ouais, il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Et puis après, il le voit emporté, le corps est descendu de la croix et porté vers la tombe. Puis la tombe est fermée, puis il y a les gardes, voilà. Les disciples, bien eux, ils se retrouvent dans la chambre haute, la porte barrée, fermée, et ils sont là comme des chatons effarouchés. Et je peux le dire parce que je suis un homme, mais ces hommes-là, ce n'étaient pas des hommes. Ils sont cachés là-dedans, et puis ils disent aux dames, écoutez, vous circulez, vous voyez, hein, c'est, prenez des nouvelles et vous nous direz ce qui se passe. Et c'est les femmes qui vont jusqu'à la tombe, c'est les femmes qui sont là pour savoir où il a été enterré, c'est les femmes qui seront là pour dimanche matin, qui verront, c'est eux, c'est elles qui circulent et qui lui apportent des nouvelles. Et après, quand elles apportent des nouvelles, ils ne les croient pas. C'est masculin, ça, n'est-ce pas? Quand elles arrivent, elles disent, on a vu le Seigneur, il est ressuscité. Bon, faudra vérifier ça. N'est-ce pas masculin? Mais ils n'ont pas changé, hein, les hommes. Alors comptez pas sur eux. Heureusement que le Seigneur nous a donné les femmes. Hein. C'est pour ça qu'il y en a tant dans les églises. On en a besoin. Et alors, c'est Jésus continue avec ces deux hommes. Et même, ils avancent. Je lis un peu plus loin. Hein, donc, ils arrivent à la fin de la journée, ils arrivent à peu près là où ils vont passer la nuit, verset 29, ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Et leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. Tout d'un coup, ils l'ont entendu prier. Ça, il y a un moyen qu'on ait un seul qui prie comme ça. Et puis, il rompt le pain, hein, parce que quand il priait, il levait les mains comme ça. Et quand il lève les mains comme ça, les marques des clous apparaissent. Et la manière dont il a prié... Et tout d'un coup, leurs yeux s'ouvrirent. Pourtant, il était là tout le long. Hein. Et il parlait avec sa voix. Je ne pense pas qu'il ait faussé sa voix pour les tromper. Mais eux, ils étaient tellement dans leur pensée, dans leur tristesse, dans leur lamentation, dans leur... Ils ne voyaient rien. C'était comme Marie de Magdala qui était à l'entrée de la tombe et qui avait les pensées ailleurs. Et même Jésus vient, lui dit, voilà, il se présente et puis elle imagine... dans son scénario à elle. Vous savez, nous ne pouvons pas nous faire confiance nous-mêmes, hein, parce que des fois, on est tellement pris dans nos idées qu'on n'arrive pas à voir la vérité, même si c'est se présenter à nous. Et surtout, si on a été éduqués dans le monde et par le monde, ils nous ont tellement bourré le crâne avec leurs idées que même lorsque nous regardons la Bible, on ne voit rien. Et c'est malheureux. Et c'est un aveuglement. Bon. C'est fait pour, hein, l'ennemi, il est là pour aveugler. Et Jésus est là, il est obligé de marcher, lui qui est ressuscité, lui qui est dans son nouveau corps, qui a d'autres choses à faire, il prend le temps de marcher avec ses disciples jusqu'à ce que leurs yeux s'ouvrent. Et n'est-ce pas le cas souvent d'entre nous avec les témoignages? Le Seigneur a marché avec nous, il a marché avec nous, il a patienté avec nous jusqu'à ce que nos yeux s'ouvrent. On dit, le Seigneur, mais j'ai toujours entendu parler de Jésus, mais c'est toi. et tu es mort sur la croix pour mes péchés. Oh, maintenant je comprends. Et tu pardonnes tous mes péchés. Mais oui, et tu m'offres la vie gratuitement. Mais oui, je veux ça. Et puis tout d'un coup, la vie est changée. Et on se dit, mais c'est arrivé comment? Ce que j'étais la semaine dernière, je ne suis plus aujourd'hui. Je vois les choses autrement. Je me rappelle, il y avait un frère, il s'appelait Baptiste. Un jour, je vais le voir dans sa chambre. Il dit, mais là maintenant, je regarde par la fenêtre, je vois les arbres. C'est un beau vert, je vois les fleurs, je vois tout ça. Je suis sûr qu'ils étaient là avant, mais je n'ai jamais remarqué. Mais maintenant, je les vois. Il s'est dit, c'est autrement quand je vois. Depuis que je vois le Seigneur, il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. On comprend le monde, on comprend les événements, on comprend pourquoi les gens se comportent quand ils se comprennent. Les yeux s'ouvrent. Mais c'est lorsque je me rends compte que ce Jésus, c'est réellement le Sauveur, celui qui a été promis, celui qui est là pour nous sauver. Et alors, bien sûr, ces disciples qui avaient pris toute la journée pour arriver jusqu'à Emmaüs, avant minuit, ils étaient déjà à Jérusalem. Ça change. Il dit, vous aurez une joie que personne ne pourra vous ravir. Et même quand ils arrivent à Jérusalem, et puis ils toquent à la chambre haute, c'est qui? C'est Clopas. Clopas qui? Mais Clopas, et puis alors, comment tu nous connais? Bon, alors vous pouvez rentrer. Et ils rentrent et commencent à leur raconter ce qui leur était arrivé. Verset 36. Verset 33. Il dit, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qu'il était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Là, tout d'un coup, eux, ils parlent autrement. Il n'y a pas 24 heures, ils disaient, ouais, on croyait, c'était un homme puissant, plein de grâce, on croyait qu'il allait apporter la délivrance, mais bon, les choses ne sont pas passées. Et là, tout d'un coup, c'est autre chose. Il dit, pendant un temps, vous ne me verrez pas, mais ensuite, vous me verrez. Et vous aurez une joie qui ne leur a jamais été ravie. Parce que lorsque s'ajoutera à cette révélation la présence de l'Esprit de Dieu en eux, ce seront des irréductibles. Et à partir de Pentecôte, c'est des hommes, même les pharisiens qui essayent de les arrêter, leur faire peur avec leur voix et leur savoir. Il dit, c'est pour des Nazaréens, ils sont pas mal, des Galiléens, ils se débrouillent bien. On dirait qu'ils auraient fréquenté Jésus. Ah oui, c'est pas seulement qu'ils l'ont fréquenté, mais ils l'ont vu. Et ils ont été saisis par lui. Et dans l'évangile de Jean, hein, si on va vers la fin de l'évangile de Jean, lorsque Jésus apparaît aux disciples... au verset 19, Jean chapitre 20, verset 19, il dit le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, donc le jour de sa résurrection, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jusque-là, ils n'avaient jamais eu peur des Juifs. Parce que les menaces qu'il y avait eues, c'était toujours contre Jésus. C'était lui qu'on voulait bousculer sur la falaise. C'était lui qu'on voulait attraper, c'est lui qu'on voulait piéger, c'est lui qu'on regardait avec des dagues dans les yeux. Hein. Mais eux, ils n'avaient jamais craint, ils n'avaient jamais. Là, pour la première fois, ils ont peur, parce qu'ils sont disciples de Jésus. Et Jésus se présente à eux dans leur salle fermée. Lui, il ne toque pas. Lui, il apparaît tout d'un coup, au milieu d'eux. Et il leur dit... Il le dit parce qu'il a besoin de le dire, la paix soit avec vous. Parce qu'ils en avaient besoin. Lui, ce n'était pas juste une salutation comme ça, parce que c'est l'habitude. Non, s'il a dit paix soit avec vous, c'est parce qu'ils en avaient bien besoin. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté pour les rassurer. Et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Voilà. Il leur avait dit ça. Mais il dit, ils furent dans la joie en voyant le Seigneur. Maintenant, c'est autre chose. Il est réellement ressuscité. Les femmes leur avaient dit, tôt le matin, leur avaient dit, mais il est ressuscité. Oh, ils ont été vérifiés. C'est vrai, ils ont été. Il y avait Pierre et Jean qui avaient couru jusqu'à la tombe, ils en avaient, mais bon, ils ont pas vu Jésus. Ils ont vu la tombe ouverte, ils ont vu. Il nous dit qu'ils ont cru, mais bon, apparemment, ils sont revenus pas complètement sûrs parce que Clopas n'était pas encore convaincu. Cléopas. Mais là, il voit le Seigneur. Et il trouve la joie. Les pleurs et les lamentations se transforment en joie lorsque les disciples croient et acceptent que Jésus est réellement ressuscité. Vous savez, et le jour où vous croyez, si vous ne le croyez pas encore, le jour où vous croirez que Jésus-Christ est réellement mort et ressuscité, eh bien vous trouverez une joie que personne ne pourra expliquer. Et ses disciples vont être changés. Et les choses changent parce que maintenant, les pharisiens, les scribes, tout ça, qui se réjouissaient de ce que Jésus soit mis à mort, et eux, en fait, font la fête pendant 3 jours. Mais dès qu'ils ont appris, les gardes de la tombe sont arrivés en courant pour leur dire... Ils sont en train de trembler. Il y a eu un ange qui a enlevé la pierre. Hein? Et puis après, c'est les pharisiens, c'est tout le monde qui tremble aussi. Oh là, avant, c'était déjà... On ne savait pas quoi faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et les disciples sont en train de trouver la joie. Ça, les choses changent. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu est en train de se réaliser. Vous savez, le plan de Dieu, quoi qu'en fassent les hommes, mais comment ils se comportent, et ce qu'ils pensent, et ce qu'ils disent, et ce qu'ils ne disent pas, et les explications qu'ils peuvent donner, ça ne changera absolument rien. Le chien aboie, la caravane passe. Dieu continue. Et il fait ce qu'il a toujours prévu de faire. Et ne croyons pas que les choses sont pires maintenant. Comme elles étaient à l'époque de Noé, elles le seront encore à la fin. Les choses, mais Dieu continue et Dieu accomplit son œuvre. Il dit, mais lorsque les disciples croient que Jésus-Christ est réellement mort, ressuscité, ils comprennent pourquoi il est mort et pourquoi il est ressuscité, et bien ça change tout dans leur vie. Et surtout quand ils comprennent enfin que tout ça, c'était selon les Écritures. C'était eux qui avaient mal compris les Écritures. C'était pas que les choses se sont mal passées. Et en général, quand on a affaire avec Dieu, c'est le tort est de notre côté, pas de son côté. Paul dira dans 1 Corinthiens 15, il dit « Christ est mort selon les Écritures, il a été enseveli selon les Écritures et il est ressuscité selon les Écritures. » Et il dit « Il y a des témoins pour cela. » Il a dit « Même à une fois, il y avait même 500 à la fois qui étaient là. » C'est difficile de tromper 500 personnes en même temps. Il savait que c'était lui. Et puis... c'est une chose de raconter des histoires. Les pharisiens, ils essayaient de leur dire, écoutez, bon, allez raconter qu'on croit les disciples l'ont volé. Mais s'ils l'ont volé, ils savent qu'il est encore mort. Hein, on peut voler le corps, mais même si on l'a volé, on raconte des choses aux autres. Et on leur dit, il est ressuscité. Mais eux, ils savent qu'il est mort. Ils ne peuvent pas se comporter de la même manière. Ils peuvent pas, ils ne sont pas prêts à mourir alors qu'il n'y a rien. Hein, mais c'est les disciples après. Ils n'ont pas craint ni la menace, ni la mort, ni la prison, ni rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus. On ne meurt pas pour quelque chose dont on n'est pas sûr. On meurt pour quelque chose dont on sait est vrai. Et c'est Paul et Silas qui se trouvaient en prison. Ils venaient d'être battus. Et puis ils se trouvent au fond de la prison. Et puis ils se mettent à chanter. Qu'est-ce qu'ils chantent ? C'était pas au clair de la lune ou la mère Michel, c'était quelque chose avec du contenu. C'était, ils chantent l'œuvre de Dieu et ce que Dieu a fait. Parce que c'est ça qui donne notre joie. Et c'est lorsque je pense à ce que Jésus a fait pour moi sur la croix que tout d'un coup, le ciel se dégage. Même si les circonstances ne changent pas, Dieu est encore là. Et alors, lorsque je reviens au chapitre 16 de Jean, après leur avoir expliqué cela, verset 23, il dit « En ce jour-là, donc une fois que vous aurez retrouvé votre joie, c'est-à-dire, en fait, quand vous aurez compris que je suis mort, que je suis ressuscité, et que ce sera un autre système, il dit « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. » Ce n'est pas parce qu'ils n'auront plus de questions. Mais il dit, parce qu'en vérité, je vous le dis, vous demanderez au Père. Dorénavant, ce ne sera pas à moi que vous adresserez au Père. Tant qu'ils étaient sur terre, Jésus était avec eux, ils avaient besoin de quelque chose. C'était, Seigneur, il n'y a plus rien à manger. Seigneur, tu veux qu'on chasse ces gens-là? Seigneur, Seigneur, je coule! Mais c'était toujours au Seigneur qui s'adressait, ils avaient l'habitude de ça. Il dit, maintenant, après la résurrection, ce n'est pas à moi que vous allez crier, vous criez au Père, mais en mon nom. Parce que c'est mon nom qui vous donne accès au Père. Mais c'est au Père que vous adressez les demandes, les requêtes, les besoins. C'est à lui que vous vous adresserez. Et si lui nous dit que c'est comme ça, c'est que c'est bon, c'est que ça marche. Il ne nous dit pas... Donc, on n'a pas besoin d'aller faire appel à saint un tel et saint autre aussi. Et on n'a même pas besoin de faire appel à la maman de Jésus. Il a dit, vous vous adressez au Père en mon nom, c'est bon. Pas besoin d'autre chose. Le seul qui passerait pas directement au Père par le nom de Jésus, c'est quelqu'un qui a un problème avec le Père ou avec Jésus. Il y a quelque chose de pas réglé dans sa vie. Et alors, s'il y a quelque chose de pas réglé dans sa vie, la meilleure chose, c'est d'aller à la croix, symboliquement, pas forcément devant, mais aller et dire, Seigneur Jésus, je comprends que tu es mort sur la croix pour mes péchés, et je voudrais que tu me pardonnes pour que ça soit écarté, pour que je puisse venir. On n'a plus besoin de prendre un peu de vin, et puis du pain, et puis après faire une prière dessus et essayer de reconstituer et dire que le vin devient réellement le sang de Christ et le pain réellement le corps de Christ, puis ensuite et puis de sacrifier le Christ à nouveau, c'est pas nécessaire. Il est mort une seule fois, nous dit Hébreux chapitre 9. Il est mort une fois et il est entré dans la présence de Dieu, il a porté son sang dans la présence de Dieu, il a obtenu pour nous la rémission de nos péchés. On n'a pas besoin de messe, répéter la croix de Christ. On n'a pas besoin d'avoir un temple saint là où on met, après comme le sang a été reconstitué symboliquement, et après il faut le garder, le conserver, puis il n'y a que celui qui a été consacré qui peut le consommer, parce que c'est le sang de Christ. Non, tout ça c'est fait. Il dit, une fois que je serai mort et que j'aurai été enterré, après, la voie est ouverte. J'aurai porté. Il a dit, je vais au Père. Il nous dit dans Hébreux 9, il nous dit, j'étais chez le Père, j'ai porté. Il a dit aux femmes, il dit, ne me touchez pas, je n'ai pas encore été chez le Père. Et ensuite, un peu plus tard, il dit, touchez-moi, regardez, vois un esprit là. C'est qu'entre-temps, il a été, il est revenu. Il a porté le sang déjà. Il a dit, après la résurrection, vous adressez directement au Père. Vous n'avez pas besoin de... Et vous lui demandez ce que vous avez à demander. Donc c'est ça, il dit, en verset 23, il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus,
En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire, et cette promesse, elle est là. Ne faites pas à Dieu les prières que vous faites à la chance ou que vous faites au Père Noël. Dieu, ce n'est pas le Père Noël et ce n'est pas la chance. La chance, on pouvait dire, écoute, la chance fait que même si je n'ai pas travaillé toute l'année, je réussisse mon examen. Vous pouvez dire à la chance, je sais que j'ai fumé toute l'année, mais je ne voudrais pas avoir le cancer. Vous pouvez dire ça à la chance. Mais à Dieu, on lui parle de choses qui ont à faire avec la joie qui est en nous. Cette joie, nous l'avons parce que Christ est mort et qu'il est ressuscité. C'est les choses qui concernent le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu et la réalisation de cette œuvre en nous. Il dit, tout ce qui va dans le sens du plan de Dieu, vous l'aurez. Parce que vous demandez à mon nom. Il dit, après, si vous faites traiter Dieu de Père Noël, bien sûr qu'il ne vous entend pas. Il serait insulté d'être traité de Père Noël ou d'assistante sociale. Ou de traiter d'autre chose. Non, Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est un Père. Il cherche notre bien. Et dit, je vous donne tout ce qui entretient cette joie, afin que votre joie soit parfaite. Et quand il parle de parfaite, ça veut dire qu'elle est accomplie, elle est réalisée, elle est comblée. Jésus avait averti les disciples qu'ils passeraient par un moment difficile, qu'ils ne le verraient pas pendant un temps, mais qu'ils le reverraient après. Mais bon, bien sûr, les disciples, ils n'y pensaient pas, ils ne sont pas souvenus quand ils ont passé par les 3 jours difficiles là. Et c'est ce qu'il leur dit dans la chambre haute lorsqu'il est apparu aux disciples dans Luc 24, verset 44. Il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse et les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toute nation, à commencer à Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Tout est conforme, tout se passe selon le plan de Dieu. Et maintenant, si la vache ne comprend pas ce qu'il y a dans un TGV, c'est pas la faute du TGV. C'est la vache qui manque quelque chose. Si je ne comprends pas tout ce que Dieu fait, c'est moi qui n'ai pas la capacité de comprendre. Mais sinon, Dieu, et la Bible nous dit que Dieu fait des choses merveilleuses. Et plus je commence à comprendre, et je ne fais que commencer à comprendre, mais plus je commence à comprendre le plan de Dieu et l'œuvre de Dieu, plus cette technologie me paraît extraordinaire. Et elle dépasse l'entendement des hommes. Mais c'est quelque chose de beau que Dieu nous propose. On ne reproche pas à celui qui est aveugle le fait qu'il ne voit pas. Mais vous savez, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, hein, nous dit en français. Mais Seigneur dit, Seigneur, je ne vois pas, mais viens au secours de mon incrédulité, comme disait le Père. De cet enfant, après que Jésus soit descendu de la montagne de Transfiguration, il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et Dieu, ça a suffi pour que Dieu fasse une œuvre extraordinaire. Il a délivré le Fils. Vous savez, que Dieu nous aide. Plutôt que de refermer le livre, plongeons les regards dans l'Écriture et mettons en pratique ce qui nous aide à comprendre. Et nous trouverons cette joie que personne ne pourra nous ravir. Ni les événements, ni les paroles des uns et des autres. Elle sera là, parce qu'on sait sur quoi elle est basée.
Prions. Père Céleste, nous sommes reconnaissants à toi pour ce que tu as promis, ce que tu as fait. Et comme il a été dit, il fait toutes choses à merveille. C'est à nous seulement de les constater. Père, aide-nous et ouvre nos yeux afin que nous voyions les merveilles de ta parole. Père, nous sommes reconnaissants à toi pour ce que tu as fait, ce que tu as entrepris. Nous n'allons pas montrer les disciples du doigt. Eux avaient besoin de voir pour croire et trop souvent nous avons besoin de voir pour croire aussi. Viens au secours de notre incrédulité et aide-nous à croître et à grandir pour toi. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Je propose un cantique. Celui qui me vient à l'esprit, c'est le 118, « À toi la gloire, ô ressuscité », parce que tout est basé là-dessus, toute notre joie, tout ce que nous pouvons avoir de Dieu provient du fait que Christ soit mort et ressuscité. Le 118.